Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI pour vous parler de cette actualité football toujours débordante dans ce monde qui est celui du ballon rond. Et nous commencerons par le président de la Confédération africaine de football suspendu par la FIFA pour 5 ans. Le comité d'éthique de la Fédération internationale a écarté le dirigeant malgache Hamad de toute activité liée au football, l'empêchant donc d'être candidat à sa propre succession comme il l'avait souhaité. Un jour sombre pour le football africain, les faits et les conséquences dans Radio Foot. Les Spurs de José Mourinho, premier du championnat anglais, cela fait 6 ans que ce n'était pas arrivé grâce à leur victoire sur les Citizens de Pep Guardiola. Manchester City végète à la 13e place. Pourquoi cette irrégularité cette saison chez les Sky Blues? Et que se passe-t-il dans la tête de Nicolas Pepe? Son entraîneur a qualifié d'inacceptable l'expulsion sur carton rouge du jeune international ivoirien. Ibrahimovic et les Rossonero tout puissants. Après leur victoire à Naples, le Milan AC garde ainsi la tête de la Serie A. Mais sans le géant suédois blessé, cette équipe pourra-t-elle rester leader? La Juventus et son toujours super Cristiano Ronaldo n'ont pas dit leur dernier mot. Et pour commenter l'actualité du jour, eh bien, 3 invités choisis spécialement aujourd'hui. Bonjour Habib Bey.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous, ainsi que Patrick Juillard. Bonjour Patrick.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Notre ami du site Foot 365 Afrique, n'est-ce pas?
Absolument.
Il y a beaucoup de choses à écrire aujourd'hui. Pour vous aussi, Hervé Penaud, bonjour.
Bonjour à vous, mais c'est beau
dans
d'être choisi
on en
comme
parle.
Ça.
Oh,
bah certainement, heureusement, j'espère bien.
Ouais, mais vous êtes choisi tout. Toujours ici. Marie Limotte m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. En Radio Foot, c'est parti. Il faudra désormais dire l'ex-président Hamad. Ce matin, en effet, le comité d'éthique indépendant de la FIFA a suspendu pour 5 ans le dirigeant malgache. Il a reconnu coupable d'avoir enfreint plusieurs articles du code d'éthique de la Fédération internationale. Alors cela concerne les abus de pouvoir, l'acceptation et la distribution de cadeaux ou autres avantages et détournement de fonds. Et ceci lui est reproché durant sa présidence qui avait commencé en mars 2017 à Addis Abeba après sa victoire sur le président, l'ancien président Issa Hayatou. L'enquête, dit la commission d'éthique, l'enquête sur le comportement de Monsieur Hamad a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque, ses accointances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités. En plus, l'ancien président Hamad est soumis à une amende de 185 000 euros. Cette suspension était attendue, en fait. Elle était même guettée, Hervé Penaud, parce que nous en connaîtrons tous les détails dans les 60 jours. Mais c'est vrai qu'on savait que le comité d'éthique avait enquêté et que c'était une vraie menace pour le président Hamad et surtout pour sa candidature.
Ah bon, on savait qu'il était sur une branche très très fine. Et la branche a rompu, évidemment. De toute façon, ça faisait quelque temps déjà qu'on savait qu'il était bien scruté, notamment par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui était l'homme qui l'avait fait, et puis finalement l'a défait. Et puis quand vous cherchez bien, vous trouvez, surtout dans le football africain. Vous savez qu'à la CAF, il y a eu quelques petites choses qui sont passées ces dernières années, et vous arriverez certainement à trouver un moyen de vous débarrasser d'Hamad. Lui a manqué peut-être un peu de finesse, j'allais dire, dans ses approches général de la situation. Aurait-il dû déjà se déclarer candidat alors qu'il savait qu'il avait quelque chose derrière lui? C'est pas pour rien d'ailleurs que c'était déclaré des gens qui étaient proches au départ de lui, comme Senghor, comme comme Yahya, le président Ahmed Yahya. Donc lui-même a peut-être pas trop compris ce qui était en train de se tramer. En tout cas, on lui a pas fait comprendre. Il a peut-être été s'est senti un peu trop surpuissant peut-être dans cette situation-là, croyant que le fait d'être président de la CAF lui permettrait de tenir face à Gianni Infantino. Et ben finalement, il n'a pas tenu, mais c'était la logique de la situation. Pour être clair, hein, ça fait depuis quelque temps, on en avait parlé dans une émission précédente, qu'on savait qu'il avait très très peu de chances de rester. Il suffisait d'attendre le moment où on allait lui couper en fait la tête, et c'est venu aujourd'hui. Rappelons-nous quand même que le fait qu'il ait le coronavirus avait aussi empêché la commission d'éthique de donner sa décision. Ils avaient préféré attendre. Lui, après, s'était fait soigner dans un hôpital égyptien avant de sortir. Bon ben voilà, maintenant le temps a fait son effet. C'est un autre combat qui va arriver, mais pour Ahmad, c'est quand même une vraie déflagration, parce qu'il faut ne pas oublier qu'aujourd'hui, il ne termine pas son premier mandat. C'est Exactement. Quand même un truc invraisemblable.
Et on se souvient des circonstances, on va y revenir, dans lesquelles il avait été élu. Habib Bey, il y a une semaine, on avait l'un des candidats à la candidature, on va dire, puisque tout cela sera défini début janvier. Mais on avait le président Senghor du Sénégal, et on avait été très prudent, et tout le monde l'était d'ailleurs, tous ceux qui sont candidats à cette... par rapport à la candidature de Monsieur Ahmad, la sanction, finalement, tout le monde s'y attendait, elle n'a pas surpris.
Oui, on a toujours considéré, on doit toujours considérer qu'il y a la présomption d'innocence, parce qu'il n'a pas été
bien
jugé,
sûr,
si je me trompe pas.
Maintenant, il risque quand même de se défendre.
Pour le comité d'éthique, il est reconnu coupable.
Voilà,
et là, c'est pas tout à fait juridique.
Ça
peut être subjectif.
C'est disciplinaire, en fait.
Voilà.
Mais il risque quand même d'attaquer peut-être la décision. Je sais pas s'il va laisser faire.
Mais surtout, Habib, on l'a peut-être senti venir, parce qu'on sentait ces tensions entre la FIFA et finalement l'homme qu'elle avait fait, comme a dit Hervé.
Mais c'est ça, c'est qu'il y avait une forme de ramification très intense au départ, qui s'est un petit peu délité au fil du temps, parce qu'on a dû sentir un petit peu, comme on dit, la patate chaude pour Ahmad,
à l'image de... Parce qu'Infantino lui-même,
voilà, exactement,
pas très serein.
À l'image du président de la Fédération mauritanienne et sénégalaise, ils se sont un petit peu affranchis d'Ahmad, en quelque sorte, en posant leur candidature. Après, ce qui est, pour moi, je trouve dramatique, c'est que pour le continent et pour la CAF, avoir un président qui n'a même pas encore fini son premier mandat est déjà, en quelque sorte, mis au banc... parce que vous avez agi et vous avez été un peu malveillant dans la gestion de cette institution, cette association même, je dirais, cette institution. C'est le drame quand même de... On pensait être sorti un petit peu de ça, justement. Je pense que le continent africain voulait sortir de ça. Alors attention, il y a aussi des choses qui se passent du côté de l'UEFA, rappelez-vous, il y a quelques années. Donc
de la FIFA, parce que je pense que c'est la FIFA qui vient condamner, et ça n'est prête
pas
à sourire.
L'affaire Black Terre,
et même Infantino. Ça n'est pas que propre à l'Afrique, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, ça fragilise l'institution, ça fragilise le football africain, et j'espère en tout cas que les prochains seront avec cette éthique qui est importante pour que le continent continue à grandir, et surtout que cette institution devienne enfin une institution, parce que on peut considérer qu'elle ne l'est pas, elle ne l'a jamais été. On en parle beaucoup, mais il y a toujours eu des problèmes avec le président d'avant, avec le président de maintenant. Il faut espérer que le président d'après soit plus fiable, je dirais.
Malgré tout, Patrick Juillard, on se souvient des circonstances dans lesquelles était arrivé le président Ahmad lorsqu'il avait été élu à la suite justement d'Ayatou et de ses 27 ou 28 ans de mandat. Ce que demandaient finalement les gens qu'on avait rencontrés à Addis Abeba alors, c'était du changement, c'était une nouvelle orientation, c'était finalement peut-être une modernisation, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, des modifications. On connaît notamment les pressions pour qu'il n'y ait plus une canne tous les deux ans et tout ça, et surtout pas en hiver. Enfin bon, on en a déjà beaucoup parlé. Et là, on a l'impression que même ça a été loupé.
Ben oui, c'est-à-dire qu'Ahmad a été élu, alors dans les circonstances qu'on connaît, mais il a tout de même été élu avec un mot d'ordre de meilleure gouvernance, avec une image d'un réformateur, d'un dirigeant plus jeune, plus dynamique, plus connecté, plus ouvert sur le monde que ne l'était Issa Hayatou. Question aussi de génération, tout simplement. Et au final, il a fait moins bien. Il a fait moins bien, puisque la modernisation, elle a été en partie avortée pour des raisons diverses. Le calendrier n'a pas toujours été tenu. Il y a eu tous ces reports qui ont donné une image un peu de fragilité.
Pas été tenu du tout, même,
à l'édifice. Et puis lui-même, dans son comportement, Alors, vous avez raison de dire qu'il y a un ensemble d'accusations qui ont été d'ailleurs énumérées de manière assez détaillée dans le communiqué de la FIFA, ce qui n'est pas toujours le cas dans les communiqués de la FIFA. Donc, c'est dire si tout de même la FIFA l'a clairement mis au banc. Mais il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a ces reproches, ces griefs qui sont énumérés par la FIFA, donc qui sont d'ordre disciplinaire. Mais il y a en plus la procédure judiciaire qui est en cours en France à l'encontre d'Hamad, qui lui avait valu déjà une interpellation en juin 2019. Une garde à vue, lui, il avait dit qu'il avait été entendu, mais c'était de fait une garde à vue dans les locaux de la PJ. Et ça donnait déjà une image catastrophique. Et c'est à la suite de ça, dans la chronologie, enfin, de manière à peu près concomitante, que la FIFA avait mis la CAF sous tutelle. Et c'est un petit peu quand Hamad a mis fin au mandat de Fatma Samoura sans le reconduire, visiblement que Infantino a compris que Hamad n'était pas fiable, que c'était un petit peu trop un électron libre, et que finalement il a décidé d'appuyer sur le bouton. Là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que la FIFA a appuyé sur le bouton du siège éjectable d'Hamad. Mais il était déjà, comme l'a dit Hervé au départ, sur une branche très très frêle depuis plusieurs mois.
Oui, parce que quand il y avait eu l'arrivée de Fatma Samoura, ce mandat qui a duré 6 mois, à RFI, on qualifiait ça d'ingérence, parce que effectivement, au vu des textes, on se demandait comment l'appeler différemment. Eux préféraient parler de bonne collaboration, de bonne entente. En gros, c'était la CAF qui avait demandé à Madame Samoura de venir un peu faire une bonne œuvre et mettre de l'ordre, surtout, évidemment, à la CAF, Hervé.
Oui, c'est ce qui avait été dit, effectivement, par le président Hamad à l'époque, justement pour bien montrer que c'était pas une certaine forme de néocolonialisme de la FIFA qui viendrait s'ingérer dans les affaires de la CAF. Mais de fait, c'était évidemment la FIFA qui venait mettre son nez dans les affaires de la CAF. C'était une forme de tutelle, il faut pas se mentir. Et il n'y avait que Hamad qui se rendait pas compte à l'époque que c'était ça. Non,
peut-être trouvé des armes contre Hamad.
C'est une possibilité qu'on peut pas écarter, même s'il faut pas oublier que celui qui a débuté cette fameuse histoire, c'est un personnage qui est aujourd'hui décédé, hein, famille, qui était le secrétaire général de la CAF à l'époque.
Fils et petits-fils de grands dirigeants égyptiens.
Absolument, c'est une famille établie qui a compté, et qui est malheureusement décédée l'année dernière,
je pense, à 39 ans. Voilà.
Donc un jeune dirigeant, et lui qui avait tous les comptes. Et qui avait dit, il y a corruption dans le football africain, et j'ai tous les comptes. Et c'est lui qui a lancé l'opération main propre, en donnant. Donc ça fait qu'effectivement, la FIFA, tu parlais des points qu'ils pouvaient énumérer. De fait,
ils avaient
quand même de quoi regarder. Et donc Hamad, lui, s'est pas rendu compte qu'à un moment, quand il a dit, maintenant, on veut plus de Samoura, Fatma Samoura. Et puis surtout, il a commencé à rentrer dans ce combat en se disant, mettons, je vais me battre contre Gianni Infantino parce que je ne veux pas cette forme d'ingérence de la FIFA et de néocolonialisme. Hein. C'est-à-dire que lui, il se battait, vous savez, en Afrique aujourd'hui, il y a tout un mouvement aussi qui se bat contre cette ingérence extérieure dans les affaires politiques, parce que là, on peut parler de politique, hein, pour le coup. Mais le problème, c'est que c'est Infantino qu'il avait mis. Donc à un moment, de la même manière qu'il l'a mis, il savait le démettre. Mm-hmm. Donc voilà, il n'a pas senti le vent tourner. Il aurait dû, pourtant c'était assez simple.
Mais en plus, dans ces situations-là, tu ne tues pas ton père. Et en fait, Infantino, rappelez-vous de cette image où on avait Hamad à côté d'Infantino comme un élève de classe et qui était en train d'écouter Infantino. On avait d'ailleurs débattu sur l'image et sur l'image que pouvait renvoyer la CAF et le fait que...
Et Gianni Infantino venait toujours au comité exécutif, où les réunions de la CAF, il montrait toujours bien son emprise, en tout cas.
Je pense que de toute façon, la gouvernance d'Hamad a été faite de tâtonnements. On n'a pas senti, en fait, quelqu'un qui a pris le pouvoir de cette CAF avec cette idée de la réformer comme il l'avait dit auparavant. Je pense que c'est bien d'avoir des beaux discours, je pense que c'est bien d'avoir des ambitions, mais il faut aussi connaître le contexte dans lequel vous êtes. Si concrètement la FIFA est omniprésente dans la gestion de la CAF, il faut l'intégrer, et à ce moment-là, il faut mettre un dirigeant qui comprend que la FIFA, de toute façon, chapeaute aussi le fonctionnement de la CAF. Pour moi, ça n'est pas forcément un problème si vous l'avez intégré, si vous fonctionnez en collaboration avec la FIFA.
Oui, mais avec Ayatou, c'était pas la FIFA qui décidait, parce que Ayatou avait un poids certain. D'ailleurs, il était président de la FIFA par intérim.
Ayatou avait bien des défauts, mais c'était un meilleur diplomate qu'Hamad.
Beaucoup. Et puis il avait une vraie vision de ce qu'il voulait. Alors, on peut lui reprocher plein de choses. Moi, je l'ai fait, donc je vais pas aujourd'hui dire il a été exceptionnel, mais il a quand même fait beaucoup évoluer le football africain et il avait une vision de ce qu'il voulait. Alors, c'est vrai que lui, il pouvait créer des textes pour empêcher un opposant de se présenter, ou alors d'un seul coup décider, finalement, on va faire un vote à main. Ce qui fait que j'étais à l'Assemblée Générale en 2000, au Ghana, évidemment, si vous vous présentez contre Ayatou, à main levée, en général, vous ne vous présentez pas, parce que vous n'avez pas envie d'être celui qui lève la main.
Il faut être courageux.
Donc lui, il avait aussi ses méthodes à lui, c'est vrai, mais il avait une sorte de cap et de vision. Et effectivement, là, je rejoins Habib hein, et Patrick, c'est que là, avec Hamad, on a l'impression que ça partait un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est parti du premier jour, rappelez-vous, hein, ce fameux raout au Maroc, où on a tout modifié, 24 équipes en juin, etc. À l'emporte-pièce, et finalement, pour se rendre compte qu'on ne pouvait plus le faire en juin partout,
voilà,
et puis
sans avoir mesuré les conséquences de ce genre de
n'oublions
décision.
N'oublions pas aussi l'affaire Lagardère. Casser le contrat Lagardère comme ça, c'est pas rien. C'est quand même de l'argent qui allait dans les caisses de la CAF. Et pas un peu. C'était des gros contrats. Donc il s'est passé plein de choses. On n'a pas trop compris où il voulait en venir. C'est parti dans tous les sens. Et alors là, après, il y a eu cette guéguerre interne. Et puis à partir du moment où on donnait les documents de possibles malversations dans le football africain, là, il était effectivement mal en place.
Les conséquences de cela, on va le voir, Habib, sur le plan peut-être de l'image et du football. Patrick, Julia, il y a eu ce voyage à la Mecque qui est carrément dénoncé. Alors, Monsieur Hamad avait invité en fait beaucoup de gens autour de lui pour faire pour aller à la Mecque au pèlerinage. On a la liste de tous les gens qui étaient là. Alors, il y a une vingtaine de personnes, essentiellement des dirigeants.
Des présidents de fédérations,
voilà,
principalement.
Des présidents de fédérations quand ils sont musulmans. Il y a évidemment celui qui maintenant le remplace, et qui le remplaçait d'ailleurs ces derniers jours, puisqu'il était, il se remettait de sa maladie, et c'est le Congolais Constant Omari. Mais il y avait aussi, alors évidemment, le puissant ou ex-puissant, je ne sais pas, dirigeant marocain Fouazi Lekja. Et puis, il y avait le candidat mauritanien Ahmed Yahia. Est-ce que, selon vous, ça peut porter préjudice à une candidature ?
C'est-à-dire que, pour moi, si on doit hiérarchiser un peu ce qui est reproché à Ahmad, là, on est dans l'exemple type d'un détournement de fonds. S'il était dirigeant si la CAF était une entreprise, on parlerait d'abus de biens sociaux. Là, c'est des détournements de fonds, c'est-à-dire qu'on utilise des fonds qui sont destinés
au football,
au bien de l'intérêt général du foot africain, à des fins d'agrément privé pour des dirigeants qui vont à la Mecque en pèlerinage, ce qu'ils ont tout à fait le droit de faire, mais qui peuvent se payer eux-mêmes sans avoir recours à l'argent de la CAF. Il en a profité. Alors, est-ce qu'il en a profité pour faire plaisir à Ahmad, qui à l'époque était le président, ou est-ce que vraiment lui-même a été l'initiateur de ce détournement de fonds? Est-ce qu'il était au courant que c'était un détournement de fonds?
Au courant, plutôt, oui.
Tout ça est pas tranché.
C'est
la vraie question. Je n'ai pas la réponse.
Voilà.
Si oui, c'est effectivement fâcheux. Et si oui, je pense qu'on va avoir des retraits de candidature. Parce que on ne peut pas penser que la FIFA va épingler Ahmad pour ce motif-là et laisser faire pour son successeur. Ou du moins, si elle laisse faire, c'est quelque chose qui pourrait être retenu contre lui plus tard si le vent tourne. Donc je suis pas certain que son intérêt soit de maintenir sa candidature.
Ces gens-là n'étaient pas censés savoir que ce voyage était financé par
c'est toute la problématique avec tout un groupe de la CAF.
C'est toute la problématique. C'est vraiment toute la problématique, et il faut espérer que le prochain candidat et celui qui sera à la gouvernance de la CAF soit justement dans cette idée de main propre et de faire avancer le football du continent, parce que on se rend compte que ces dernières années, malheureusement, je suis pas sûr que le football de notre continent ait évolué. Je trouve qu'il a pas forcément évolué. Est-ce qu'il a régressé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas une énorme évolution dans l'aspect économique de notre football. Il n'y a pas une énorme évolution dans l'aspect organisationnel. Et c'est quand même les deux piliers importants du football du continent. C'est-à-dire que ce qu'on veut développer, et c'est un petit peu ce que veulent copier justement la CAF avec ce que peut faire l'UEFA, la FIFA, enfin tous ces organismes, c'est qu'à un moment donné, le football de ces associations, institutions, gagne de l'argent. Je ne sais pas si aujourd'hui le football africain en gagne tant que ça.
En ce moment, tout le monde sait que pas beaucoup, justement.
Donc c'est la problématique.
À cause de la pandémie, bien entendu.
Oui, non, mais c'est un problème pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a un problème organisationnel et un problème économique qui doit être réglé par le prochain boss de la CAF.
Bah, justement, d'ailleurs, Habib, le communiqué officiel qu'on a eu de la CAF aujourd'hui, qui entérine donc le prolongement de l'intérim de Constant Omari à la présidence de la CAF, soulignait en fin de message, c'était d'ailleurs presque un peu ambigu, la CAF qui s'inquiète des conséquences sur sa réputation de cette longue procédure, Hervé.
Je trouve effectivement qu'ils ont été assez froids déjà, hein, parce que il y a pas de soutien.
Assez rapide aussi.
Rapide, il y a peu de soutien quand même affiché à Ahmad. On a acté que Constant Omari prenait la tête de la CAF jusqu'à l'élection. Oui, c'est un peu surprenant. Alors je voulais juste revenir sur ce fameux épisode de l'avion. Effectivement, on peut pas savoir d'où vient l'argent quand on vous invite quelque part, mais à ce niveau de responsabilité, on fait attention. C'est la moindre des choses. Ils peuvent pas comme ça rentrer dans n'importe quel avion de n'importe qui. Non, à un moment, on sait que ça peut être des fonds effectivement de la CAF.
On sait qu'on n'a pas payé déjà.
Ah oui, ça déjà, on n'a pas payé, c'est déjà une première chose.
C'est
pour des gens qui n'ont pas de soucis de ce côté-là, hein, généralement. Mais faut faire attention, faut pas oublier que l'abus de base sociale, c'est quelque chose qui existe.
Même si c'est pas une entreprise, c'est tout comme. Il faut des usages illicites.
Il faut faire attention. Maintenant, le problème aussi en Afrique, c'est qu'effectivement, il y a des principes qui existaient. Hein. Ça existait aussi, soyez tout, les invitations, les choses comme ça. Moi, je veux pas expliquer que Tout est sombre parce que c'est faux. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que ça fait partie aussi, je dis pas d'un rituel, mais des invitations, ça fait partie de ce qu'on a connu auprès de la CAF.
Je suis d'accord que sur l'aspect de ce pèlerinage, il y avait une 20-30 personnes dans cette délégation. On peut rechercher pendant les décennies passées des dizaines. L'histoire du favoritisme là pour Tactical Steel, c'est quand même en termes de masse financière, je sais pas si c'est plus grave, oui sans doute, mais surtout l'écart de chiffres entre le contrat précédent et celui qui a été écrit pour Tactical Steel pour le bien d'un ami d'Ahmad, l'écart est énorme, c'est du moins 10 ans complet, donc en termes même de gestion pure des fonds de la CAF, c'est une aberration totale. Et c'est quand même très grave quand on est dirigeant d'une association qui déjà ne roule pas sur l'or, qui a des problèmes financiers
plus récurrents, disons.
La question qu'on peut se poser, parce qu'on l'a vu du côté de l'UEFA, c'est ce que va emmener Ahmad dans sa chute aussi. Parce que, mine de rien, à partir du moment où il va considérer que c'est terminé, c'est déjà terminé pour lui, vous savez, les langues se délient. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui. Constant Omari aujourd'hui est un élément d'Ahmad et qui était aux côtés d'Ahmad. Vous savez pas comment ça peut se passer maintenant. Aujourd'hui, il va être celui qui va remplacer Ahmad jusqu'à l'élection. Mais vous savez, dans ces moments-là, perdu pour perdu, vous avez des gens qui se livrent. Bah, Blatter, par exemple, quand il tombe, il emmène des gens avec lui. Donc, il va falloir être vigilant sur cet aspect-là.
Ah, c'est possible. Ça, il faudra suivre ça avec attention.
Alors, comme on dit, un dossier à suivre. En tout cas, à cette heure, il n'y a donc plus que 4 candidats à la succession du président Ahmad, puisque l'élection, en lisant le communiqué officiel de la CAF, on voit que le calendrier est maintenu, donc l'élection doit avoir lieu
le 12 mars. Et Annie, il y est pour rien, je dis juste que...
Oui, bien sûr.
Je ne dis pas qu'il y est pour quelque chose, je dis juste que dans ces situations-là, c'est un exemple, mais Constant Marie, aujourd'hui...
D'autant plus que Constant Marie était proche de Yétou.
Donc, bien sûr.
Et c'est lui donc qui est président de la CAF pour les jours qui viennent. L'Afrique...
Excusez-moi, Annie. Je voulais dire que là, c'est vrai qu'on est en train d'assister à quelque chose de rarissime dans le football africain quand même.
Oui. On a cherché des exemples et on sait que par exemple en Amérique du Sud, Blatter avait entraîné dans sa chute beaucoup de gens. Mais je me souviens, si je me trompe pas, de Nicolas Léos, qui était le président d'une confédération aussi, qui était celle d'Amérique du Sud, la CONMEBOL. Mais là, en l'occurrence, il me semble qu'il avait démissionné avant que le cataclysme ne se passe. Mais par contre, en Amérique du Nord, on avait eu beaucoup de dirigeants de fédérations qui avaient été renversés ou qui sont allés en prison et qui ont été condamnés.
La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est et si il ne s'était pas présenté? Et si dès le mois de juin ou le mois de mai, il avait expliqué, parce que pas maintenant évidemment, mais non, ne vous faites pas de soucis.
Tout le temps de l'enquête dont il visait.
Voilà,
En tout cas, le volet FIFA aurait peut-être été moins salé, mais l'enquête française qui est toujours en cours sur l'histoire de Tactical Steel aurait continué.
Si c'était pas présenté, peut-être que on aurait été plus conciliant avec lui. Je voulais aussi qu'on s'arrête quelques minutes sur cette nouvelle qui est tombée au cours du week-end où le football africain bien quand même a perdu un de ses grands dirigeants, le président de la fédération ivoirienne, Augustin Sidi Diallo, qui a été emporté par le Covid-19. Alors porteur du virus, il n'avait déjà pas pu suivre les deux derniers matchs des éléphants, c'était contre Madagascar, et puis son état s'est aggravé en fin de semaine dernière et c'est ce virus qui l'a emporté, lui qui avait un physique forçait la nature, on pense évidemment à Pape Diouf. Alors parmi les très nombreuses réactions, écoutons celle du sélectionneur de l'équipe de la Côte d'Ivoire, le français Patrice Baumel, très ému au micro d'Antoine Grenier.
C'est une année 2020 très compliquée à traverser. Sensation bizarre que de perdre Augustin Sidi Diallo comme ça, trop tôt, trop vite, c'est injuste, incompréhensible. Voilà, en tout cas, il restera dans mon cœur parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie profondément. On parlait très souvent football, c'était très agréable. Il y a encore même pas une dizaine de jours, nous étions au restaurant ensemble. On prenait vraiment plaisir à parler football, car c'était un vrai passionné. C'était un grand homme, un grand président, et il a fait beaucoup, beaucoup de bien au football ivoirien et au football africain.
Il était en poste, Augustin Sidi Diallo, depuis 2011. Et il était donc là lorsque Hervé Renard et son adjoint, Patrice Baumel à l'époque, avec toute l'équipe nationale, avaient ramené la coupe à la maison. On se souvient, c'était une grande fête, Patrick Juillard.
Alors il succède effectivement à Jacques Hanouma lorsqu'il prend les rênes de la fédération. Et c'est sous son règne que l'équipe des éléphants va concrétiser...
Va aboutir finalement à cette victoire.
Enfin, la domination qui était la sienne sur le foot africain. Une finale en 2012 où tout de même la Côte d'Ivoire, entraînée à l'époque par François Zaoui, perd sans perdre le moindre match cette CAN, en faisant 0-0 et en perdant au tir au but. Et ensuite, donc 2015, où là encore, ça se joue au tir au but, mais là, cette fois, ils lui sont favorables. Oui, Sidi Diallo, c'était quelqu'un de très... carré dans la gestion, mais en revanche d'une certaine rondeur dans le labor, quelqu'un de relativement accessible
abordable,
au quotidien, voilà, qui a essayé de mettre de l'ordre un petit peu dans le football de son pays, mais dans une période quand même compliquée, puisqu'on arrive, il arrive au pouvoir juste après les déchirements du début des années 2010, dont Hervé peut sans doute vous parler beaucoup mieux que moi.
Oui, Hervé, parce qu'il avait décidé de pas se représenter à sa propre succession, lui, en laissant la porte ouverte. Alors, on a beaucoup suivi la campagne dans Radio Foot, mais surtout, la famille du football ivoirien est divisée, se déchire. On pense au groupe GX et à tous ces problèmes qui font d'ailleurs qu'on a toujours... Finalement, la présidence était presque vacante dans le sens où l'élection n'a pas eu lieu quand elle aurait dû avoir lieu.
Oui, même s'il avait adoubé quand même un Sori Diabaté.
Oui, bien sûr.
Président de la Ligue et
bien sûr,
président,
son grand ami.
Son bras droit, j'allais dire, hein, d'une certaine manière. Oui, c'est un coup dur pour le football ivoirien, ça c'est certain, parce que bon, déjà tout le monde le connaissait. Hein, c'est quelqu'un qui est dans le football pas seulement depuis 2011, il l'a été largement avant.
Bien sûr.
Il s'occupait même des joueurs, la fameuse grande époque des débuts des années 2000, lui aussi s'occupait un
même
peu
dans
des
les
professionnels. Et après dans les années 90, avec le club, etc. Donc c'est quelqu'un, c'est une image, une figure. Moi je me souviens très bien, on a discuté des dizaines de fois. d'un long entretien qu'on avait eu à la Coupe du Monde en 2018, donc en Russie. J'étais parti à l'hôtel où il y avait toutes les délégations, puis là on avait parlé très très longuement sur le football africain, sur la Côte d'Ivoire, etc. Donc c'est un moment vraiment très dur. J'ai vu en plus les réactions de tous les acteurs du football ivoirien, que ce soit Didier Drogba, Kolo Touré,
Yaya Touré,
etc. Même ceux qui n'avaient pas nécessairement les meilleures relations du monde, parce qu'après c'est comme tout, vous avez des bonnes ou des différents, mais tous ont reconnu quand même ce qu'il avait apporté au football ivoirien.
Et beaucoup de gens, évidemment, à RFI ont longuement et souvent discuté
bien
avec
sûr.
Lui. Et au nom du service des sports et de Radio Foot International, on présente nos condoléances à la famille du football ivoirien et à la famille de Augustin Sidi Diallo. Let me take you down.
Song. Every time he touches the ball against Manchester City, Son seems to score. He's done it again inside the first 5 minutes. And here is Lascelles, so freshly introduced and scoring. Now that is what you call an impact. Who look like they're heading to the top of the Premier League.
Résultat pour Tottenham.
Les Spurs s'affirment journée après journée comme des sérieux candidats pour le titre en Premier League.
Tottenham, sérieux candidat au titre après avoir battu Manchester City samedi par 2-0. Ils ont les Reds à leur basque, comme on dit, numéro 2, après la victoire de Liverpool sur Leicester hier par 3-0. Mais surtout, l'équipe de José Mourinho a confirmé sa place dans le haut du tableau du championnat anglais cette saison. Hein, on les voit depuis le début. Et pour la première fois depuis 2014, les voilà premiers de la Premier League. Ça n'était donc pas arrivé depuis longtemps. Ça datait de l'époque de l'Argentin Mauricio Pochettino. En plus, ils ont dans leur rang l'un des meilleurs buteurs, le deuxième, le Coréen Son. Harry Kane, eh bien, il a 7 buts à son actif et surtout, il est premier au rang des passeurs. Abbey Bay, Tottenham, emmené par José Mourinho, est-ce un bon candidat cette année au titre pour vous ?
Oui, ça l'est, pour deux raisons. C'est qu'il s'est renforcé. Il a une équipe qui est très très bien physiquement, je trouve, par rapport à d'autres équipes de cette première ligue. Ne pas oublier que l'année dernière, lorsque Mourinho a pris cette équipe, il n'avait pas Harry Kane un long moment parce qu'il était blessé. Il a eu énormément de joueurs blessés comme Hugo Lloris, rappelez-vous, avec sa fracture du coude. Et mine de rien, ils ont très bien recruté. Quand vous prenez Reguilon côté gauche, ils ont pris Højbjerg, le Danois, qui fait une paire avec Sissoko. Magnifique au milieu de terrain. Il se permet de garder Gareth Bale sur le banc et de le ménager parce qu'il sait très très bien que s'il est pas bon contre City, on va le juger plus durement. Donc il le garde un petit peu au frais. Il le met sur des matchs d'Europa League et des matchs un petit peu plus abordables pour le remettre au niveau physiquement. Et surtout, j'ai trouvé que son équipe, là, pour le coup, elle n'a pas dégagé une âme que sur le plan défensif. Elle a été capable de créer. Ce qu'on reprochait à Mourinho ces dernières années, c'est qu'il avait de la matière et qu'il n'était qu'un entraîneur sur les aspects défensifs. Oui. Il était capable de coups. Là, moi, j'ai regardé le match. C'est un match qui est abouti pour Tottenham, mais qui est abouti sur le plan défensif, où tactiquement, ils ont mis en grande difficulté Manchester City. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que City, sur ce match-là, a plus de 70% de possession de balle. Très peu d'occasions. Je crois que c'est 3 ou 4 tirs cadrés pour City. Et il a fait déjouer cette équipe de Guardiola, dont on ne voit plus l'inventivité, dont on ne voit plus cette magie au sein de cette équipe de City. Je les ai trouvés bien meilleurs physiquement que les Citizens. Donc pour l'instant, franchement, ça se passe bien. Il a replacé Ndombele un petit peu plus haut.
Après l'avoir puni et sermonné.
Oui, en quelque sorte, Reguilon, c'est un coup. Højbjerg, c'est un coup. Ndombele un peu plus haut, bah, mine de rien, c'est un coup. Et puis cette complémentarité avec Minson, Harry Kane, c'est sûrement la paire aujourd'hui d'attaquants qui fonctionne le mieux les yeux fermés. C'est-à-dire que le déplacement de l'un est en fonction de l'autre. Et derrière, ça fait une équipe qui est très performante.
Ça fait un an que Mourinho a pris cette équipe. Alors, il en a pris d'autres en Angleterre. Et on se souvient que parfois, la deuxième, voire la troisième, surtout la troisième année, est compliquée. Et là, on a l'impression que c'est différent avec Tottenham, Patrick Juillard.
Là, il est dans des temps habituels, Mourinho. C'est-à-dire que la première année, il établit les fondations, il tâtonne un peu. La deuxième, il donne souvent son maximum. Et c'est pendant la troisième que ça se gâte. Si vous regardez ses différents mandats...
Donc là, ça devrait aller.
Là, c'est une bonne année. Alors, tout ce qu'a dit Habib est juste. Et sur l'aspect physique...
C'est bien, Habib.
Oui, non, mais... Bravo, Habib. T'as été adoubé par Patrick.
Je trouve que c'est particulièrement vrai sur l'aspect physique. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie différence dans l'engagement, dans la répétition des efforts, comme on pourrait dire, le peps que dégage l'équipe. Tottenham était à 110%, alors que Manchester City, ça ronronne un petit peu, c'est moins rapide, c'est moins efficace que ça pouvait l'être la saison dernière. L'absence d'Aguero n'explique pas tout, c'est une grosse absence, mais ça n'explique pas tout. Mais cette équipe de Tottenham, elle met en valeur le jeu de Mourinho dans son meilleur, c'est-à-dire que beaucoup d'efforts de solidarité défensive de tous les joueurs et pas uniquement des défenseurs, et efficacité, transition rapide et voilà, un côté clinique en attaque, et voilà, tout est là.
Tottenham, c'est la deuxième meilleure attaque du moment, 21 buts à égalité avec Liverpool, ils sont derrière Chelsea. Justement, vous parlez évidemment de l'adversaire, parce que on rejouait un peu Mourinho-Guardiola. Écoutons Guardiola qui a tenté d'expliquer la défaite des siens sur la pelouse de Tottenham avec un Manchester City qui a l'air en panne cette saison. Résultat irrégulier, ils sont 13e actuellement entre Leeds, le promu, l'équipe de Marcelo Bielsa, ça et Wolverhampton. Alors écoutons Pep Guardiola.
L'équipe est assez similaire à celle de la saison dernière. On donne très peu à l'adversaire. En sachant que Tottenham avait 9 joueurs en défense, on a créé pas mal d'occasions. Il y avait de la qualité, nous étions présents. Mais on prend 2 buts sur 2 tirs. Nous, on n'a pas su marquer avec 22 tirs. Je ne sais pas combien étaient cadrés. Pas assez, clairement pas assez. Qu'est-ce qu'il faut qu'on essaye de faire maintenant? Cadrer nos occasions. En termes de jeu, nous ne sommes pas très loin de ce qu'on voudrait. Mais on a du mal à marquer en ce moment. Et ce n'est pas à cause d'un joueur ou d'un autre en particulier. C'est la réalité. 10 buts en 8 matchs, ce n'est pas suffisant.
Et oui, alors c'est pas suffisant, à tel point que Manchester City est la 11e attaque de la Premier League. Alors, ils ont toujours la possession, vous le disiez, Habib, mais infructueuse.
Oui, mais moi, je crois qu'il y a quand même un vrai souci physique sur toutes les équipes qui ont joué le Final 8. hein, aussi bien celle qui avait été éliminée juste avant sur des matchs retour de
huitième
de
Bayern.
Sauf le Bayern, exactement ce que j'allais dire. Même s'ils ont perdu une fois 5-1, ouais, fait un match nul. Ces jeux, c'est rare.
Verdeur, c'était pas flamboyant.
Oui, bon, mais ils ont tout un problème physique. Donc je pense que quand même la gestion de cette compétition en fin de saison et en avant début de saison a été très compliquée pour tous les clubs. Vous voyez le Real, vous voyez Barcelone, vous voyez toutes les Lyon a eu des difficultés. Paris Saint-Germain, parce qu'on se moque de Paris Saint-Germain, mais ils sont comme les autres, hein, ils sont comme tous les autres, hein, ils sont comme Manchester City et même Liverpool a eu beaucoup de difficultés. Hein. C'est faut quand même être honnête. Donc ça veut dire que lui qui demande aussi beaucoup de courses, beaucoup d'intensité dans ses jeux, beaucoup de déplacements, et ben peut-être que les joueurs sont un petit peu fatigués. Alors il y a certainement une étude de l'adversaire qui est assez précise des forces de Manchester City. Peut-être que effectivement l'équipe a un coup de moins bien, les joueurs ont un coup de moins bien. Vous savez, sur une saison, parfois il y a des hauts et des bas.
Ils sont pas en Ligue des Champions, ça va bien, 3 matchs, 3 victoires.
Oui, ils sont pas encore complètement largués en championnat. C'est un championnat assez serré.
Oui, mais l'année dernière, on se souvient qu'il y avait ce mano à mano.
Je pense réellement qu'il y a le problème Agüero, qui va régler pas mal de problèmes au sein de cette équipe de City. Et il y a un problème de vestiaire dans les choix qu'il a pu faire. Parce que mine de rien, il a ramené Rodri. Et Rodri, c'est quand même celui qui a pris la place de Fernandinho, très apprécié dans le vestiaire de Manchester City. Il a ramené Ferran Torres. Et Ferran Torres, il pousse tout doucement Riyad Mahrez, qui lui aussi a été très performant, il ne faut pas l'oublier. Riyad Mahrez était l'un des meilleurs joueurs de Manchester City l'an passé.
Ah oui, et en rapport action décisive, exact, temps de jeu, c'était le meilleur de l'équipe.
Exactement. Et je pense qu'à un moment donné, il peut agacer son vestiaire aussi à faire des choix multiples où il cherche, est-ce que c'est Ferran Torres, est-ce que c'est Riyad Mahrez, et mine de rien, il adapte son projet à Rodri. Parce que la problématique qu'il a, c'est que quand il joue en 4-2-3-1, en quelque sorte, le rendement de Rodri, qui n'est plus tout seul sur la pointe basse du milieu de terrain, n'est plus le même. Sauf que la problématique qu'il a, c'est que en mettant Rodri dans ce système-là, il fait redescendre De Bruyne beaucoup plus bas. Moi, je pense que De Bruyne aujourd'hui, dans le cœur du jeu très bas, c'est pas là où on veut le voir. Il est très performant lorsqu'il est en soutien de l'attaquant.
Il est mieux dans les 30 derniers matchs.
Exactement.
Alors le seul petit problème, c'est que, et tu le sais mieux que moi, c'est que le problème avec Guardiola, c'est qu'il a un système de départ, mais dans le même match, il peut changer 4-5 fois son système. C'est-à-dire qu'il y a quand même des déplacements de joueurs permanents. Donc c'est assez compliqué parfois aussi hein, d'associer un poste à un joueur. Notamment, tu parlais de De Bruyne, mais De Bruyne, on le voit aussi très haut de temps en temps.
Oui,
alors
oui.
Faudrait voir ça, l'évolution moyenne sur un terrain, mais finalement, il est loin de la base promise dès le départ. Quand tu le vois effectivement sur ce 4-2-3-1, parce que ça bouge tout le temps, c'est justement ce qui fait la force de Guardiola.
Non, c'est sûr. Après, il y a les choix Cancelo par exemple, parce qu'il a Benjamin Mendy qui est blessé, il met Cancelo à gauche. Zinchenko, ça n'a pas rempli ça n'a pas fait le travail. On a une équipe aujourd'hui aussi qui s'adapte au jeu de Guardiola à venir fermer les espaces entre les intervalles défensifs et du coup, ils ont plus de difficultés. Quand il dit qu'ils ont joué face à 9 défenseurs, oui, forcément, sur l'aspect défensif, les équipes elles essayent de contrer ce qu'il essaye de lui mettre en place dans son jeu positionnel, mais il doit être capable de se réinventer aussi. Et je trouve que depuis Lyon, il y a quand même eu un tournant. Ouais. Il a perdu ce fluide et on a l'impression qu'aujourd'hui, même sur son visage, sur sa façon de coacher, il y a quelque chose de différent. Moi, j'admire Guardiola. J'adore Guardiola, le regarder, l'observer, voir ses équipes jouer. Depuis quelques temps, il n'y a plus de magie. Cette équipe,
elle j'attendrai
peut
plus... un peu encore. J'attendrai
non,
un peu
pour. Et ça va revenir. C'est une certitude que ça va revenir.
Bon, il y a des périodes un peu moins bonnes.
Bien sûr. Ça va revenir parce que tu l'as dit sur l'aspect physique et ça va revenir parce que Agüero, à un moment donné, va être mieux.
Ça va beaucoup aider.
Et ça va beaucoup aider parce
mais
que.
Mais je sais pas si, tu sais, l'année va être dure pour toutes ces équipes, je pense. Hein, parce qu'il n'y aura jamais de rappel sur le plan physique. On va y avoir décembre, mais pas pour les Anglais déjà. Donc, juste l'après-trêve en janvier maintenant. Mais ça va être compliqué. Cette gestion sur la longueur.
Il y a pas les 5 changements là-bas.
Il milite pour d'ailleurs. Une autre question autour de ce championnat anglais avant qu'on se dirige vers l'Italie, c'est que se passe-t-il dans la tête du gunner Nicolas Pépé?
Et Alioski qui est au sol, le Nord-Macédonien. Oh Nicolas Pépé, qu'est-ce qui lui a pris?
Bah oui, il va lui donner, c'est clair. Voilà, allez hop.
Carton rouge pour Nicolas Pépé.
Plus c'est carton rouge direct.
Et la soirée est en train de très mal tourner pour les Gunners qui certes sont toujours à 0-0 mais se retrouvent à 10.
Very clear, it's unacceptable. It's unacceptable.
C'est inacceptable. Big colère de Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners. L'Ivoirien a été expulsé à la 52e minute et cela a mis en fureur son entraîneur. Le match s'est terminé sur un 0-0 à Leeds face à l'équipe de Bielsa. Arsenal, 15e attaque de Ligue 1.
De Première Ligue, pardon.
Oui.
Alors ça serait désespérant, 15e attaque de Ligue 1.
Ils auraient fait un Brexit aussi, pardon. Habib, qu'est-ce qu'il a pu se passer ou qu'est-ce qui se passe dans la tête de Nicolas Pépé. Est-ce que c'est juste ce match ou c'est une somme en fait de choses?
Non, je pense que c'est une somme de choses parce que j'ai regardé aussi le langage du corps d'Aubameyang. Il est agacé parce que je pense que Arteta a essayé d'équilibrer cette équipe sur le plan défensif, mais elle en a perdu son âme offensive. Elle est complètement stérile offensivement, elle ne produit rien. Et je pense que lorsque vous avez cette matière à votre disposition et que vous voyez que Pépé a passé son temps, parce que j'ai commenté le match, dans sa partie de terrain à gérer Alioski sur le côté gauche, à l'empêcher de progresser, mais d'être dans un aspect défensif, je pense qu'il y a une frustration qui s'installe. Et puis Alioski, il a été malin, hein. Il est venu le chatouiller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. L'action, elle commence une bonne minute avant le coup de tête de Pépé. Il y a un premier accrochage, un deuxième accrochage, un troisième accrochage, un quatrième accrochage. Et puis après, c'est vrai qu'il y a ce geste qui, même si le coup de tête en lui-même n'est pas un coup de tête pour mettre quelqu'un au sol, mais le geste est répréhensible et n'a pas sa place sur un terrain. Le carton rouge, pour moi, est légitime et est tout à fait logique. Mais Arteta doit aussi, à un moment donné, se remettre en question, savoir ce qu'il propose à ses attaquants pour éviter cette frustration. Parce que, pour moi, le carton rouge, il est d'agacement, mais il est aussi de frustration par rapport au projet de jeu offensif de cette équipe. Les joueurs offensifs aujourd'hui ne se régalent pas, que ce soit Aubameyang, Saka, Lacazette, qui est sur le banc, et également Nicolas Pépé.
Patrick Juillard.
Oui, je trouve que Arteta, à vouloir toujours relancer court, partir de derrière, il n'a pas les défenseurs assez forts techniquement pour ce projet de jeu-là. Il perd beaucoup de temps dans les premières étapes de la construction et son équipe recule. Et donc, c'est très frustrant pour les attaquants. C'est vrai qu'ils sont cantonnés à faire du travail défensif. Après, sur le cas de Nicolas Pépé...
Arteta est en colère contre lui-même.
Il est en colère contre Pépé.
Il
n'a
pas les défenseurs avec ses ambitions. Il n'a pas les défenseurs à la hauteur de ses ambitions. Après, pour Pépé, il y a deux problèmes. Je pense qu'il n'a toujours pas vraiment à 100% digéré son transfert. Ouais. Rappelons 80 millions d'euros. C'est une grosse pression sur un jeune joueur.
11 buts en 55 matchs.
C'est ça, ce qui n'est pas déshonorant, mais ce qui n'est pas à la hauteur des attentes et du prix mis sur ce joueur-là.
80 millions.
Et secondement, cette saison, l'arrivée de Willian dans le couloir droit, un joueur chevronné, confirmé, un joueur de classe mondiale, ex-Chelsea, à ce poste-là, c'est un peu une pierre dans son jardin. Ça peut le pousser à se transcender, mais ça peut aussi lui mettre du doute dans la tête et lui compliquer la tâche. Donc, c'est pas simple pour Nicolas Pépé.
On gardera un œil sur Arsenal et Nicolas Pépé et nous filons vers l'Italie.
Le centre, Zlatan, et le doublé signé Zlatan Ibrahimovic. C'est un phénomène à la 54e minute. C'est un troisième doublé cette saison après Bologne, après l'Inter, après la Roma. C'est même 4. Ça fait un doublé face à Naples et surtout ça fait 2-0.
Il est incroyable.
Ibrakadabra par deux fois, le géant suédois magicien des Rossoneri qui a largement donc contribué à la victoire du Milan AC à Naples 3-1. D'ailleurs, l'entraîneur des Napolitains Gennaro Gattuso, qui a joué avec Ibra à Milan il y a quelques années, n'a pu qu'admirer son ami à l'œuvre.
Le voir aujourd'hui dans cet état de forme à 40 ans, ça me fait penser qu'il est plus fort maintenant que lorsqu'il en avait 30, même s'il a toujours été très fort. On n'a pas eu l'occasion de se croiser ce soir, mais c'est mieux. Vous savez, je suis quelqu'un qui déteste perdre et en ce moment, ça me brûle à l'intérieur. Je l'appellerai au téléphone pour le saluer un peu plus tard.
Alors, il a dû le féliciter, mais peut-être aussi l'encourager, car Zlatan est passé rapidement de la joie à l'inquiétude. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour, Annie.
Matteo, votre Zlatan Ibrahimovic, le joueur de la Serie A, il est passé de la joie à l'inquiétude parce qu'en fait, il est sorti blessé hier et ça va durer.
Oui, ça va durer pratiquement 3 semaines, même plus. Mais vous savez, avec lui, on ne sait jamais. Il pourrait se rétablir même en une poignée de jours. Lui, c'est Benjamin Button, hein, faut pas l'oublier.
Il y a plein de Benjamin Button chez vous, je pense.
Ouais. Donc, non, les examens donc médicaux de ce matin ont montré qu'il y a une lésion du biceps fémoral à la cuisse gauche. Donc, au moins 3 semaines, malheureusement, pour l'AC Milan.
Et on se posait la question, Matteo Cioffi. Alors, on se disait que c'était peut-être une bonne nouvelle pour Lille qui les reçoit, mais il les avait déjà battus au match aller. Ça, c'est en Ligue Europa. Mais l'autre interrogation, c'est Ibra. 10 buts en 6 matchs. Que vaut cette équipe des Rossoneri sans son géant suédois et sans ce buteur-là? Est-ce qu'elle peut s'en sortir? Est-ce qu'elle peut rester accrochée à cette première place?
Oui, je commence à dire une petite chose aussi sur les débuts d'Ibra en 8 journées de champion de Serie A. Ça fait de ce joueur le plus ancien qui a réussi cet exploit. Donc c'est déjà un petit record, un grand record pour le joueur. C'est vrai, Ibra est leader et phare de l'équipe, mais souvent les Rossoneri, les autres coéquipiers ont dû se priver de lui. Et pourtant, ils s'en sont bien tirés car ils ont jamais perdu un match lorsque le Suédois n'était pas avec eux. Cela confirme un peu la valeur de l'AC Milan qui progressivement a su renforcer son jeu, le rendre plus solide, même sans sa principale vedette. Et voilà donc que l'équipe en championnat ne subit pas de défaite depuis 20 défis d'affilée. Seul faux pas, cette défaite, vous l'avez dit avant, avec Lille, qui a été un signal d'alarme tout de suite éloigné grâce à des belles prestations au championnat. La CC Ibra, mais aussi un milieu de terrain le plus fort en Europe, comme a écrit ce matin le Corriere della Sera. Milieu de terrain composé par Kessié, Bennacer, Çalhanoğlu, c'est-à-dire force et qualité en même temps. Quoi dire en plus de Gigio Donnarumma, qui a seulement 21 ans et est considéré un des plus forts gardiens au monde. Et donc, faut aussi se rappeler que l'AC Milan est aussi l'équipe la plus jeune des 5 principaux championnats d'Europe, avec un âge moyen de 24 ans et demi, qui promet bien pour le futur de ce club.
Hervé Penaud, cette équipe du Milan AC, elle ressurgit, on va dire, en tête du championnat, parce que ces derniers temps, elle était jamais trop loin, mais elle était non plus jamais trop près.
Ah oui, avec Ibra, tout est possible, hein, en fait. Quand il est revenu, personne s'attendait à ça. Alors, ça me fait plaisir qu'on parle du milieu de terrain, évidemment, et puis notamment d'un joueur africain. Deux joueurs africains.
Benacer,
qui avait été le meilleur joueur de la dernière CAN, qui fait vraiment une saison époustouflante, hein, Matteo, je sais pas ce que t'en penses. Et Kessié, dont on parle un petit peu moins, mais Kessié a un impact énorme.
Matteo, il nous parle de Kessié
régulièrement. Ah, parce que Kessié, c'est un joueur.
C'est un vrai tank au milieu de terrain.
Ah, il est costaud. Et maintenant, il s'est même installé en équipe de Côte d'Ivoire. C'était peut-être le meilleur joueur contre Madagascar, notamment sur le match retour. Alors que jusqu'à présent, c'était un joueur lambda de l'équipe de Côte d'Ivoire, mais il n'avait pas eu encore cet impact-là. Donc là, franchement, Kessié et Bennacer, ce sont deux phares quand même du football africain aujourd'hui qui sont au Milan AC.
Matteo Cioffi, juste une dernière petite question, parce qu'il nous reste que quelques secondes, mais l'autre Benjamin Button de ce championnat italien, c'est Cristiano Ronaldo.
C'est pas moi.
Non, vous c'est à part. Lui aussi auteur d'un doublé face à Cagliari, ils ont gagné 2-0. Mais surtout, il y avait des rumeurs, vous avez trouvé des rumeurs qu'il retournerait au Real. Et ça, c'est hors de question, il restera italien.
Absolument, ces rumeurs ont été... C'est Marca, le journal espagnol, qui les a fait circuler le vendredi avant le match de la Juve, ont été tout de suite démentis par le directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, qui a confirmé que Cristiano Ronaldo restera à Turin au moins jusqu'en 2022. Et c'est au moins peut laisser aussi ouvert quelques autres possibilités, comme le fait que Ronaldo puisse renouveler son contrat avec la vieille dame, ou pourquoi pas rentrer dans un futur dans les cadres des dirigeants du club. Oui. C'est pas exclu.
Eh ben, on suivra ça et vous nous aiderez à suivre ça, Matteo Cioffi. Merci beaucoup, Matteo. Grazie d'avoir été en
Merci
direct avec nous. Merci. Merci beaucoup Hervé,
Abib
et Patrick Juillard d'avoir décodé le football aujourd'hui pour nous. Merci à Laurent Salerno et Marie-Amélie Motte et à demain.